Well, friends and comrades, listeners to Amanda, all of you, welcome. Amanda Radio's here again this week at CQT 90.3 FM here in Montreal. I'm Doug Miller with Gwen Schulman, still remote, but we'll be getting back more and more, don't worry. And this week, it's all on racism. Sama El-Bayara has got together a wonderful couple of interviews and some commentary that she's collected around the issue. The end of March, well, March was Black History Month, and then there's anti-racism on the 21st of March. So she's focused on that issue for this show. And Gwen, you were going to talk about something.
Yes, I'm here. Yes, I'm here to say thank you to our listeners and supporters for their incredible generosity during the funding show. So just the most amazing piece of news is that the station achieved its goal and in fact even slightly surpassed its fundraising goal. So it's just an amazing testament to all of the love and support that there is out there for community radio and for CQT in particular, and vis-a-vis our listeners for Amandla. So a big, big thank you and loving hug going out to all of you for your kind generosity. If any of you haven't actually gotten around to paying your pledge, please do so. It'll make the people's lives at CQT a lot easier. But anyway, again, thank you. We really, really appreciate it. And now on with the show.
Well, what I've done before we play Sama is she's asked me to play some music. I've got three pieces selected. Listeners to the news in the world would have recognized that two Black Democrat politicians in Memphis, Tennessee, were expelled from the legislature on a very racist principle, and it's just been the classic racial stereotyping and pegging by a white Republican House majority, and so they're actually being reinstituted, and that's wonderful. But I thought to go along because Memphis, Tennessee is very close to Mississippi. I thought we'd play a lovely song or a powerful song by Nina Simone called Mississippi Goddamn. It's a good one. And for the other two pieces, I've got Brenda Fassie from South Africa, Shoot Them Before They're Born, also about a thematic around racism. And finally, Billie Holiday's epic, famous song, Strange Fruit, which speaks for itself and tells the story. So stay tuned. Here is Sama with her special on racism.
Chers auditeurs et auditrices, notre programme aujourd'hui aborde un sujet de grande importance pour nous comme individus et pour notre société. Il s'agit du racisme sous toutes ses formes. Et que pouvons-nous faire pour le combattre? Mais tout d'abord, je voudrais préciser que j'anime cette émission de radio à partir de Montréal. Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour diverses Premières Nations. Ainsi, nous reconnaissons que nous sommes sur des territoires autochtones non cédés du territoire traditionnel des peuples Mohawk et Algonquin. Nous sommes reconnaissants d'avoir la chance de vivre ici et nous remercions les nombreuses générations qui ont pris soin de cette terre et de ses eaux. Rappelons quelques notes historiques. Le 10 décembre 1948, les 58 États membres qui constituaient alors l'Assemblée générale des Nations unies ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris, au palais de Chaillot. Pour commémorer son adoption, la Journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre. Ce document fondateur, traduit dans plus de 500 langues différentes, continue d'être pour chacun d'entre nous une source d'inspiration pour promouvoir l'exercice universel des droits de l'homme. citons quelques articles relatifs au racisme et à la discrimination. Le premier article, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Article 3, « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. » Article 4, nul ne sera tenu en esclavage, ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Article 7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Or, aujourd'hui, 75 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il reste urgent de combattre le racisme et la discrimination raciale. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, dit « Où qu'il soit, nous devons le combattre sans réserve, sans hésitation, sans détour. » Restez avec nous à l'écoute de CKUT pour connaître deux organisations qui s'engagent à lutter contre le racisme à Montréal.
Mississippi Goddam is our last tune we had some requests for. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Can't you see it? I know you can feel it. It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset, and Governor Wallace has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Hound dogs on my trail. School children sitting in jail. Black cat crossed my path. I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on the land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, I'll tell you. People just about do. I've been there, so I know. They keep on saying, go slow. That's just the trouble.
Too slow.
Washing the windows.
Too slow.
Picking the cotton.
Too slow.
We're just plain rotten. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. You lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady, and you'd stop calling me Sister Sadie. My country is full of lies. We are all gonna die and die like flies. I don't trust nobody anymore. They keep on saying, go slow. That's just the trouble. segregation,
too slow.
Mass participation,
too slow.
Unification,
too slow.
Do things gradually,
too slow.
Will bring more tragedy.
Vous êtes à l'écoute de CKIT 90.3 FM. La Fondation canadienne des relations raciales fait part de sa solidarité avec toutes les personnes qui ont été victimes de discrimination en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur contexte culturel. Le racisme est un problème. Avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir le directeur du département de Québec de la Fondation canadienne des relations raciales, Neil Santa Maria. Bonjour, Monsieur Santa Maria, et merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour à vous. C'est un plaisir.
Alors, pour contrer la discrimination, ça c'est vraiment un gros projet. C'est quoi exactement la mission, si vous pouvez nous cerner la mission de la Fondation?
Oui, bien sûr. Alors, comme vous le dites, s'attaquer à la discrimination, c'est effectivement un gros projet. Et c'est pour ça que pour réaliser la mission de la Fondation, on va se situer à différents niveaux. Donc, on va se situer au niveau des recherches, on va recueillir des données justement qui vont ensuite servir à appuyer certains projets, certains programmes. On a aussi la volonté de servir de centre d'information sur les ressources qui existent déjà dans le domaine des relations raciales, en établissant des liens avec les institutions publiques, privées ou les organisations qui travaillent justement à l'élimination du racisme et de la discrimination. Et on va aussi encourager et promouvoir l'élaboration de politiques et de programmes efficaces, justement pour éliminer le racisme et la discrimination. Donc on va se situer aussi bien au niveau du terrain, quand on va travailler avec par exemple les organismes communautaires, quand on va financer certains de leurs projets, mais on va aussi avoir des liens avec les institutions, les politiques publiques, justement pour que ces changements qui viennent du terrain soient pérennes et puissent durer dans le temps.
Neil Santa Maria, vous apportez un point très important, c'est les informations, parce que si on ne sait pas où réside le problème, on ne peut pas agir. Donc, je dirais, ça c'est une étape fondamentale. Alors, vous avez besoin de collaborateurs, vous avez besoin de faire des liens. Comment ça se passe?
Bah, écoutez, par exemple, on travaille sur les actes haineux parce qu'on s'est rendu compte que depuis 2019 jusqu'à 2022, les actes haineux avaient augmenté de manière considérable. On parle de 70% dans l'ensemble du Canada et au Québec également. Et donc, on a commencé à réfléchir un petit peu sur la question. On s'était dit qu'il faudrait apporter un changement significatif. Et donc, on a regardé un petit peu qu'est-ce qui s'était passé au Québec et dans le reste du Canada. Et on a vu, par exemple, qu'il y avait une coalition qui s'était créée récemment, une coalition contre la haine, que je crois que vous connaissez assez bien, et qui regroupe différents acteurs, justement, qui travaillent sur ces questions des actes haineux. On est aussi allé voir différentes instances juridiques, comme des cliniques légales, par exemple, qui accompagnent les personnes qui sont victimes des actes haineux. Et puis, on est aussi allé voir les organismes communautaires, différents organismes communautaires, pour voir un petit peu la forme que ça pouvait prendre selon qu'on appartienne à telle ou telle communauté, et s'il y avait eu des changements dans la manière dont c'était perçu par les victimes. Parce qu'on pense vraiment que c'est essentiel de donner la voix aux premiers concernés, c'est-à-dire aux personnes qui ont vécu cette expérience, puis aux personnes qui les accompagnent, puis aux personnes qui font des recherches sur la question, pour justement arriver à avoir une compréhension fine et des recommandations qui vont vraiment dans les intérêts, justement, pour les intérêts de ces personnes qui ont vécu ces actes haineux.
Et effectivement, comme vous le mentionnez, on s'est rendu compte que ces dernières années, autant il y a eu des efforts pour contrer la discrimination et le racisme, il y a eu une sorte de, ce qu'on appelle en anglais, pushback. Et c'est des actes haineux, c'est des incidents haineux qui se sont produits. Maintenant, sur votre site web, vous parlez de valeurs et j'étais très touchée par ce que vous dites au niveau de l'humilité, c'est-à-dire rester en contact avec la réalité, écouter et surtout admettre qu'il y a du racisme. On ne dit pas que tout le monde est raciste, mais on dit qu'il y a des actes de racisme. Ça peut être des actes isolés, ça peut être des actes à portée plus large, mais quand même, il faut les regarder en face. Vos commentaires là-dessus?
Je pense que c'est essentiel, c'est-à-dire que nommer quelque part revient aussi à faire exister. Et donc, pour continuer un petit peu sur... Alors, il y a eu tout ce débat, par exemple, sur le racisme systémique, mais on s'est aussi rendu compte, par exemple, que pour les actes haineux, il y avait certaines personnes, certaines institutions qui commençaient à en parler, mais on se rendait compte aussi que c'était pas quelque chose d'extrêmement présent dans l'espace public. Et pour nous, c'est vraiment important d'en faire une sorte de sujet de discussion sur lequel la société québécoise, comme la société canadienne, aurait tout intérêt à se pencher, parce que, encore une fois, il faut vraiment prendre l'ensemble des personnes qui peuvent faire levier justement sur ce problème pour trouver justement des solutions qui correspondent aux besoins des personnes qui l'ont vécu, mais aussi qui puissent durer dans le temps. Et on a vu, par exemple, que ça avait été le cas avec les personnes qui étaient victimes de violences sexuelles. Il y a eu une sorte de collaboration interministérielle pour pouvoir apporter une réponse rapide et relativement satisfaisante du point de vue des victimes. Donc, on aimerait faire cela avec les actes haineux. Bien sûr, il faut pas non plus que ce qui se fait pour les actes haineux fasse perdre de vue les enjeux pour le racisme à proprement dit. Donc, je pense que c'est vraiment important que différentes organisations et institutions collaborent justement pour trouver des solutions adaptées.
Oui, et les solutions adaptées, je me permets de dire, évoluent. C'est-à-dire, il y a différents groupes qui seront ciblés à un temps différent. Par exemple, quand on a vu les réfugiés syriens qui sont venus, il y a eu quand même un mouvement opposant leur réception. De même, par exemple, maintenant, on se penche, et votre organisme en particulier, sur les questions autochtones. Donc, il y a cet aspect, je dirais, évolutif qu'il faut prendre en considération. On ne va pas dire le racisme, c'est du passé. Qu'est-ce que vous en dites?
Je pense que c'est vraiment, comme vous le dites, extrêmement important de faire les liens entre le passé et le présent, justement pour construire une société dans laquelle tout le monde se sent appartenir et que le futur de cette société soit un petit peu l'expression d'une volonté commune de toutes les parties. Vous avez parlé, par exemple, des autochtones, et vous n'êtes pas sans savoir que on a découvert il y a quelques mois des tombes d'enfants qui nous ont rappelé cruellement la réalité un petit peu de ce passé historique et puis des conséquences que ça avait aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que le Indian Act ou la question des territoires non cédés, comme la question des pensionnats d'ailleurs, sont des questions qui sont encore aujourd'hui d'une actualité brûlante et sur lesquelles il faut apporter des réponses. Et donc, comme vous l'avez dit, on s'est beaucoup investi à ce niveau-là. Il y a eu notamment des conférences qui ont été faites à propos des pensionnats autochtones. Au Québec, je sais qu'on avait eu un partenariat avec l'ONF, justement, pour présenter un petit peu le travail du sénateur Murray Sinclair, qui a un travail absolument extraordinaire pour la commission Vérité Réconciliation. Et le film avait été fait par Alanis Obamsawin, qui est une de mes réalisatrices préférées ici au Québec. Donc voilà, toutes ces choses-là permettent aussi de faire s'asseoir à table les différentes personnes qui sont concernées par ça, d'apporter aussi une possibilité de guérison pour les différentes nations autochtones. Et quand on parle du vivre ensemble, il faut que ça soit une réalité concrète et pas quelque chose qui se fasse dans un sens un petit peu unilatéral. Donc c'est pour ça que, encore une fois, c'est vraiment très important de partir de la voix, du témoignage, de ce qu'ont vécu finalement les premiers concernés. Et puis, voilà, ce qui est tellement important pour moi, c'est qu'il y a quelques années, j'avais aussi travaillé à l'Université Concordia, au Centre d'histoire orale et de récits numérisés, justement, et on s'était appliqué à recueillir l'histoire de vie de 500 Montréalais qui avaient dû quitter leur pays à cause de guerres, de violations de droits de la personne et de génocide. Et je sais que c'est une expérience qui m'avait profondément marqué, et c'est pour ça que cette idée de partir des premiers concernés et puis de travailler avec tous les partis qui peuvent faire levier, c'est quelque chose que je répète très 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 souvent, parce que ça me semble vraiment essentiel, et parfois malheureusement c'est un peu perdu de vue.
Oui, je dois vous avouer que j'étais très touchée par le documentaire que vous avez projeté concernant justement les résidences et toutes les injustices que les peuples autochtones ont subies. Moi, venant ici au Québec, je n'en avais pas entendu parler, et c'était comme une chose qui ne s'est pas produite. Donc maintenant, je me rends compte que nous sommes sur des territoires non cédés. Je suis beaucoup plus sensibilisée à la question autochtone. Et franchement, je sens que toutes les personnes, soit ceux qui sont venus se joindre au Québec récemment ou ceux qui ont été là de longue durée, doivent savoir c'était quoi le passé. Maintenant, pour respecter justement les peuples autochtones, je viens de recevoir cette notice que The Native Women's Association of Canada présente Change the Bill. Donc, c'est une demande qu'on puisse imprimer sur les billets de $20 une personnalité féminine autochtone. Et cela, c'est sur le site web de changethebill.ca. Donc, je voulais simplement partager avec nos auditeurs et auditrices ce geste qui est symbolique et qui vraiment a beaucoup de valeur pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça me fait penser un peu à... ça s'était déjà passé, par exemple, avec un grand personnage historique de la communauté noire sur les billets de $10, comme vous le savez. Et je pense qu'effectivement, ça serait quelque chose d'important, de l'ordre de la reconnaissance. Mais comme vous le disiez très, très pertinemment, c'est aussi symbolique dans le sens où il ne faut pas faire l'économie pour autant justement de ce travail de mémoire, de ce travail de guérison et de réconciliation quelque part. Donc je pense que ça serait un geste de bonne volonté. Je pense aussi que, comme vous le disiez, pour les personnes qui arrivent au Québec et au Canada, cela montrerait que justement le Québec et le Canada sont des endroits où on reconnaît un petit peu la participation historique de différentes communautés. C'est vraiment très important. mais il faut aller aussi plus loin que cela.
Neil Santamaria, directeur du département de la Fondation canadienne des relations raciales pour le Québec, merci beaucoup pour cette intervention et je termine en disant que nous reconnaissons que nous sommes ici à Montréal sur des terres autochtones non cédées. Merci beaucoup. Restez à l'antenne de CKUT 90.
Oh,
Vous êtes à l'écoute de CKUT 90.3 FM à Montréal ou CKUT.ca partout dans le monde. Nous continuons notre programme dédié aujourd'hui à la lutte contre le racisme. En 1965, la communauté internationale a adopté une convention par laquelle elle s'est engagée à éliminer toutes les formes de discrimination raciale. Cette convention est aujourd'hui sur le point d'être ratifiée par tous les pays. Pourtant, partout dans le monde, trop de personnes souffrent de l'injustice et de la stigmatisation qu'entraîne le racisme. Je cite ici un extrait de la déclaration et programme d'action de Durban. Aucun pays ne peut se targuer d'être exempt de racisme. Le racisme est une préoccupation mondiale et sa lutte exige un effort universel. Les personnes d'ascendance africaine, descendantes des victimes de la traite transatlantique, des esclaves ou des migrants plus récents, sont fréquemment confrontées à la discrimination raciale et aux préjugés. En raison de structures et d'institutions discriminatoires, héritées des injustices de l'esclavage et du colonialisme, les personnes d'ascendance africaine font partie des groupes les plus pauvres et les plus marginalisés de la société et sont également confrontées à des taux alarmants de violence policière et de profilage racial. Les victimes de discrimination raciale peuvent également souffrir de formes multiples, aggravées, composées ou croisées, de discriminations fondées sur d'autres motifs connexes tels que l'âge, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine sociale, la fortune, le handicap, la naissance ou tout autre statut. L'antisémitisme et l'islamophobie exposent les membres de ces communautés religieuses à la discrimination et à des mouvements violents fondés sur le racisme et les idées discriminatoires. Les femmes et les filles sont confrontées à une discrimination supplémentaire fondée sur leur sexe, ce qui les rend encore plus vulnérables. Notre entrevue suivante vous présentera un aperçu des activités de la Semaine d'action contre le racisme, tenue annuellement du 21 au 31 mars à Montréal. Strange fruit. Trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree
to drop. Here is a strange and bitter cry.
Vous êtes à l'écoute de CKUT 90.3 FM. Les meilleures pratiques créées en 1999 pour souligner le 21 mars, journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies, la Semaine d'action contre le racisme, SACRE, coordonne des activités très variées pour lutter contre les différentes formes que peut emprunter l'intolérance dans notre société et pour égaliser les chances de toutes et tous. Nous avons le plaisir d'accueillir le moteur derrière la Semaine d'action contre le racisme, Samira Laouni. Samira, bienvenue à notre émission et merci beaucoup d'être avec nous.
Merci infiniment, Madame Elibiaré, pour l'invitation. Merci aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent aujourd'hui. Ça me fait plaisir de répondre aux questions autour de la semaine d'action. Excusez. Autour de la semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances.
Et effectivement, vous êtes aussi la cofondatrice de l'organisme Communication, Ouverture, Rapprochement Interculturel, que nous connaissons très bien sous l'acronyme COR. Là, je vous félicite pour toutes les actions de la semaine qui vient de se terminer, quoique il y a encore des activités en cours. C'est vraiment impressionnant. J'ai simplement allé sur le site web de la SACRE, sacr.ca, pour voir tout ce qui s'est déroulé. Et déjà, comme je disais, vous êtes tellement dynamique, on prévoit pour 2024, qu'est-ce qui peut se produire. Mais aujourd'hui, nous allons simplement faire quelques réflexions sur ce qui s'est passé la semaine dernière, en commençant par l'exposition d'œuvres de jeunes Québécoises musulmanes dans le cadre du projet Empowerment des filles par l'art et la rencontre de l'autre, puisque c'est toujours en cours. Est-ce que vous voulez bien partager?
Cette exposition-là émane d'un projet en fait qui a été financé par Patrimoine Canada dans le cadre des projets du COR. Donc, comme vous aviez dit, dont je suis aussi la présidente. Donc, ce projet-là a commencé en 2019, il s'est terminé en 2022 et on est sorti de ce projet-là avec des œuvres d'art. Qui ont été produites par des jeunes et des moins jeunes, je dirais ça, c'était intergénérationnel, c'est des mamans avec leurs filles, et c'était interethnique, il y avait des Québécoises de confession musulmane et des Québécoises dites d'origine canadienne-française. Et ensemble, elles ont produit ces œuvres-là, qui sont aujourd'hui exposées encore au Jésus. L'exposition a eu lieu depuis le début mars et elle se termine le 14 avril et on a eu le vernissage le 30 mars dernier, jeudi dernier, on a eu le vernissage de cette belle exposition.
Donc, et si je comprends bien, vous avez eu quand même des séances d'information et d'échanges. Ça n'a pas seulement été pour faire de l'art, mais une certaine réflexion au niveau de l'ethnicité, si vous voulez partager votre avis là-dessus.
Plus spécifiquement, la première phase du projet Empowerment par l'art et la rencontre de l'autre, l'Empowerment des filles par l'art et la rencontre de l'autre, c'est un projet qui a été en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal. D'abord, c'était un gros partenariat, c'est un très beau partenariat en plus. Mais il a consisté dans sa première phase, il était composé de trois phases. La première phase a consisté dans des ateliers sur la citoyenneté, l'identité, l'empowerment et le féminisme. Et à chaque fois, on invitait des personnes spécialisées dans leur domaine pour animer l'atelier de ces thématiques-là. La deuxième phase a porté sur des voyages à travers le Québec. Donc, trois voyages qui étaient organisés. Un dans la ville de Québec, un autre dans la ville de Rimouski. On a été jusqu'à Rimouski. Et un autre à Sherbrooke. Et à chaque fois, on a voyagé avec des bus, on a loué des bus, on s'est transporté. Donc, c'était une expérience inédite, même pour les mamans, de voyager avec leurs filles dans ce cadre-là. Donc, et à chaque fois qu'on voyageait, on reproduisait encore, on reprenait les thèmes citoyenneté, identité, empowerment et féminisme. À chaque journée de travail, il fallait que même les œuvres qui étaient produites soient produites sous ces thématiques-là. Donc, tous les slams qui ont été produits, toutes les écritures qui ont été produites, à chaque fois, ça faisait référence et à la citoyenneté, et à l'identité, et à l'empowerment, et au féminisme. Donc, il y avait dans notre cohorte, quand même, il y avait trois garçons qui ont participé aussi à ces ateliers-là, à ce projet-là. C'était pas seulement des filles, mais comme les garçons ont manifesté leur désir d'y adhérer, on leur a ouvert la porte.
Ça, c'est une très belle initiative parce que effectivement, dans la société, c'est pas seulement des femmes, mais aussi des hommes, des garçons, et ça doit évoluer des deux parts. Mais maintenant, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que la semaine d'action contre le racisme s'était étendue. Au début, c'était centré sur Montréal, mais maintenant, vous avez rayonné à travers le Québec. Est-ce que vous voulez partager avec nous où est-ce que vous êtes allé et puis qu'est-ce que vous avez fait?
Alors, ce que j'ai essayé depuis, moi, je coordonne la SAC depuis 2011. Moi, je suis pas fondatrice de la SAC. Moi, j'y ai adhéré bénévolement à partir de 2011 où on avait $0 de financement. On avait juste la ville de Montréal qui aidait un petit peu, qui soutenait un tout petit peu la semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. Donc, sous le gouvernement Harper, on n'avait plus aucune sainte pour la SAC. Mais petit à petit, 2013, 2014, j'ai chaque année à coordonner la SAC bénévolement. Et pour moi, ma vision est toujours la même depuis toujours. Pour moi, les problèmes ne se contiennent pas, ne sont pas contenus ou ne restent pas dans un endroit géographique spécifique. Comme je l'ai dit à la cérémonie de clôture de la SAC vendredi dernier, le Québec n'est pas plus raciste ou moins raciste que les autres provinces du Canada ou que les autres pays dans le monde. C'est partout pareil, il y a du racisme. Les gens, le racisme, c'est pas l'État qui est raciste, c'est des personnes qui font l'État et c'est les personnes qui sont des fois racistes. Tout le monde n'est pas raciste, donc il faut vraiment que ces notions-là, qu'on les intègre, qu'on les assimile d'abord. Ensuite, si partout dans le Québec, il peut y avoir un peu de racisme, il faudrait que la sensibilisation soit étalée un petit peu partout dans le Québec, même s'il y a des coins où il n'y a pas du tout de différence, où tout le monde est homogène, tout le monde est blanc, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut sensibiliser quand même dans plusieurs milieux. Et donc, avec cette vision-là, j'ai essayé de prendre des contacts à travers les municipalités, à travers les centres communautaires, les organisations communautaires, etc., les MRC, les départements qui s'occupent de l'interculturalisme dans certaines municipalités, comme par exemple, si vous prenez à Sherbrooke, il y a un département spécifique qui s'occupe juste de la diversité. Donc, j'ai essayé de prendre contact, de vraiment faire beaucoup de prospection. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de réseautage, beaucoup de bouche à oreille pour vraiment parvenir à toucher les personnes les plus sensibles pour établir avec ces personnes-là des partenariats et les sensibiliser à l'importance de mettre en place des activités durant cette semaine.
Oui,
et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir des activités un petit peu partout, Saint-Félicien, Rouyn-Noranda, Lac-Saint-Jean, Shawinigan, Sherbrooke. C'est vraiment partout qu'on a maintenant des activités pendant la semaine d'action contre le racisme.
Et Samira,
organismes locaux qui organisent ces activités-là. Nous venons à leur aide avec la thématique, avec le matériel marketing, avec, par exemple, pour la coordination, ce que je fais, c'est que j'essaye de les aider à ne pas mettre toutes les activités en une seule journée entre le 21 et le 31 mars. Parce que sinon, ça fait que tout le monde ne peut pas aller à une seule activité. Donc, j'essaye de voir les journées du 21 au 31 et un petit peu d'étaler les activités de façon à ce que en une journée il y ait un choix entre par exemple exposition, documentaire à voir ou film à voir, quelque chose d'art par exemple de la musique ou slam ou poésie ou quelque chose, puis conférence et puis atelier. Donc j'essaye de jouer sur les différentes catégories avec lesquelles on pratique.
Oui, au
donc
fait,
la sensibilisation,
je vais
mettre ça vraiment de façon très coordonnée pour qu'il n'y ait pas de cumul dans la même journée avec les mêmes activités en une même journée. Voilà, c'est ça.
Moi, j'allais justement faire un commentaire, c'est qu'on veut des immigrants à travers le Québec. Donc, on veut ventiler, les nouveaux venus. Et ce qu'on entend du côté des nouveaux venus, des immigrants, c'est écoutez, on va aller dans ces coins, mais on va pas être bien reçu ou pas bien compris. Donc, l'importance du travail est d'aller faire de la sensibilisation, même dans des endroits où, comme vous dites, il n'y a pas, c'est homogène, tout le monde est québécois, blanc, catholique. Et est-ce que vous avez eu comme une réaction disant, ben écoutez, on n'a pas quelqu'un qui soit pas québécois de souche dans notre coin, donc ça nous concerne pas?
Non, j'ai jamais eu cette
réaction
là. J'ai jamais été en face de cette façon de réfléchir. Peut-être parce que dans le réseautage, de toute manière, on essaie de toucher les gens sensibles, comme j'ai dit tantôt. Je vais pas aller toucher quelqu'un qui est insensible à la cause.
Okay.
Je vais aller c'est-à-dire, je vais aller contacter des personnes qui déjà ont cette sensibilité-là à l'autre, envers l'autre, à l'empathie, à la bienveillance, etc. Sinon, je ne peux pas travailler avec des gens qui, initialement, ne sont même pas du tout sensibilisés. Ça ne sert à rien du tout. Donc, je pense que ça facilite l'accès, ça facilite la pénétration en fait du milieu dans lequel on veut exister.
De l'idée de vivre ensemble.
C'est très très c'est très gratifiant une fois qu'on parle avec des personnes même juste un tout petit peu sensibilisées à la cause, puis juste discuter avec ces personnes-là, leur ouvrir l'esprit, leur dire bon, même si vous n'avez pas de migrants, vous n'avez pas de différence chez vous. Il se peut qu'il y en ait, justement avec les nouvelles politiques d'immigration aujourd'hui au Québec, on veut que les gens partent dans les régions, on attire les gens dans les régions, donc il est essentiel aujourd'hui que les régions soient sensibilisées à la réalité de la diversité pour pouvoir offrir un meilleur accueil. Maintenant, aux personnes accueillies,
oui,
c'est-à-dire aux immigrants.
Mais
moi, je dis qu'il ne faut pas aller de prémisse avec un préjugé qu'on va être mal reçu.
Okay.
Il faut d'abord y aller. Peut-être qu'on va être très bien reçu parce que dépendamment des milieux, on ne peut pas juger d'avance. On ne peut pas avoir un jugement à l'avance avant de partir. C'est certain que ce qui fait peur aux immigrants, c'est de ne pas trouver les services nécessaires qui peuvent répondre à leurs besoins dans les régions. Et ça, c'est une réalité. La majorité des services, on va les trouver dans la grande métropole, dans l'île de Montréal, puis la région de Montréal. Mais plus on s'éloigne de la région de Montréal, moins les services existent pour les immigrants. Et c'est là la problématique. C'est beaucoup plus en termes de services qu'en termes de...
D'accueil.
Ils ne nous connaissent pas, ils ne nous voient pas, et puis ils ne vont pas comprendre qu'est-ce qu'on est. Il faut juste faire la distinction entre ces deux points-là.
Merci, ça c'est vraiment de l'information très précieuse que vous apportez. Samira Laouni, dans la semaine de sensibilisation d'action contre le racisme, il y a aussi un volet qui traite des réfugiés. Alors ça, c'est un problème d'actualité, c'est un problème auquel il faudrait faire face. Donc, si vous voulez nous dire quelque chose des ateliers, qu'est-ce que vous avez recueilli comme information sur cette problématique?
OK. Alors, en fait, c'est pas un volet de la SACRE, les réfugiés. C'est juste que l'année dernière, pour la 23e édition, on avait choisi l'accueil des réfugiés, des personnes réfugiées et immigrantes. Et puis, voyant que la problématique des personnes réfugiées et immigrantes ne cessait pas, au contraire, qu'il s'accroissait depuis l'année dernière, on a dit que cette année, on va reprendre la thématique, la même thématique que l'année dernière, et on va l'approfondir encore dans nos connaissances, dans nos informations. Et c'est pour ça qu'on a reproduit la thématique « L'accueil humain des personnes réfugiées et migrantes au Québec ». Donc, durant les ateliers, durant les conférences, on a d'abord, pour le colloque de la SACRE, on a visionné le documentaire Essentiel, et le lendemain, le 23, et puis le 24, on a eu une conférence autour du documentaire Essentiel. Donc, toutes les réalités rencontrées sur le terrain pour la réalisation du documentaire, pour accueillir, collecter l'information des témoignages des personnes qui vivent ces situations-là. Donc, c'était pas facile. Donc, on voit très, très bien que les personnes qui sont en situation vulnérable ont peur de témoigner à la caméra parce qu'ils ont peur des répercussions qu'ils vont recevoir par la suite. Donc, on a soulevé ce point-là. On a soulevé le point que ils sont toujours, par exemple, les travailleurs temporaires sont toujours, c'est une autre réalité, c'est ça qu'on a découvert, c'est que au-delà des réfugiés et des personnes migrantes, il y a aussi la catégorie des travailleurs temporaires qui sont amenés ici avec des contrats, mais qui sont là, ça fait plus de 10 ans, ça fait 15 ans qu'ils sont là, ils n'ont jamais leur résidence, ils vivent seuls sans leur famille, ils laissent leur famille dans leur pays d'origine, et ils sont ici, c'est comme une sorte d'esclavagisme moderne. C'est ça que le documentaire Essentiel a souligné. C'est cette sorte, cet esclavagisme-là qui est devenu moderne. Avant, on allait avec les bateaux chercher les esclaves. Maintenant, on les fait venir par avion. Donc, et puis le contrat fermé, c'est-à-dire que la personne, quand elle arrive ici, elle ne peut pas changer d'employeur, elle est obligée de rester chez le même employeur parce qu'il détient, il garde son passeport entre les mains pendant la période du contrat. Donc, toutes ces choses-là, on les a découvertes et personne ne pensait que ça pouvait exister au Québec.
Effectivement,
et le documentaire Essentiel a vraiment souligné cette réalité-là.
Samira,
ça aussi, ça fait partie de des activités de cette semaine. Durant les ateliers, on a eu même une table ronde sur les témoignages de personnes réfugiées. Et le titre, c'était « Pourquoi l'exil ?». Et là, on a eu trois personnes de trois continents différents, alors d'Haïti, de l'Afghanistan et de la Syrie. Vous voyez que c'est trois continents différents. Et chaque personne a un récit propre à elle pour l'exil. Elles ont tous toutes les trois personnes sont passées par le système, le même processus de réfugiés, demandeurs d'asile, etc., etc. Et puis par la suite, elles ont obtenu leur permis. Elles sont maintenant toutes les trois personnes sont devenues des citoyens et citoyennes canadiennes. Mais durant le périple de l'exil, c'est trois récits complètement différents. Ces trois réalités complètement différentes et ces trois personnes qui étaient de la haute bourgeoisie dans leur pays d'origine et qui étaient très instruites dans leur pays d'origine, qui avaient de très hauts diplômes dans leur pays d'origine, qui vivaient très aisément dans leur pays d'origine. Et ici, comment elles se retrouvent, comment elles se débattent avec tous les défis, elles font face à plein de défis, à plein d'obstacles pour refaire leur vie, mais que finalement, ces trois personnes-là que nous avons choisies pour cette table ronde ont fini par réussir leur vie ici aussi.
Samira,
des réussites pour le Canada et pour le Québec.
Samira El Aouni, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais quand même, malgré tout, les défis, je dirais, la semaine présente un aspect optimiste. Alors, si vous pouvez nous dire en une minute, qu'est-ce que vous avez voulu projeter avec cet aspect léger, cet aspect culturel, cet aspect agréable, parce que c'est pas seulement des tragédies, mais il y a du succès, il y a de l'empathie. En une minute.
Je pense que la chose, la meilleure chose avec laquelle on a conclu la semaine le 31 mars, vendredi dernier, c'était l'appel à la solidarité. C'était très, très beau cet appel à la solidarité de la part de plusieurs, d'abord de tous les paliers gouvernementaux. Il y avait des représentants qui ont émis ce souhait-là de travailler sur les projets de loi, de travailler sur les droits de ces personnes-là. Toutes les personnes, par exemple des institutions, que ce soit la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, que ce soit la Fondation canadienne des relations raciales, que ce soit la Ligue des droits et libertés, que ce soit le Centre Justice et Foi, que ce soit le Conseil interculturel de Montréal, et j'en oublie, et le réseau de la paix, pour la paix sociale, etc., etc., tous ces organismes-là se sont réunis pour dire haut et fort appel à la solidarité et que on ne doit laisser personne derrière. Il faut vraiment essayer de traiter, de faire face à tous les défis, mais ensemble, on pourra faire face à ces défis-là. Et je pense que cet appel-là à la solidarité a été vraiment très, très bien entendu. Et puis, tout le monde était aussi contre le fait que des politiciens se réjouissent de la fermeture du chemin Roxham, parce que oui, c'est un chemin qui a été fermé, mais on a vu, il y a eu 8 morts dans la rivière, des noyades, à cause de cette fermeture-là du chemin Roxham. Donc, il faut vraiment être très vigilant par rapport à ce que nos politiciens disent. Il faut vraiment qu'ils aient plus discours avec
empathie,
dignité,
oui.
Discours dignes de l'humanisme pour pouvoir faire face à ces réalités et que, de toute manière, les mouvements, humains ne feront que s'agrandir parce que ce n'est plus juste à cause des guerres ou des problèmes politico-sociaux dans certains pays du monde que les personnes partent, mais maintenant il y a aussi des exils qui se font à cause du climat, et ça, c'est une réalité à laquelle tout le monde va devoir faire face, et c'est une réalité, on ne peut pas être dans notre petit coin, à être bien à l'aise, et puis que les autres sont en train de mourir ailleurs. Je pense que c'est la moindre des choses que d'avoir de l'humilité et d'avoir de l'empathie envers ces personnes-là, et de leur donner un petit peu de chacun d'entre nous.
Samira Laouni, merci beaucoup pour votre présence et pour toutes ces précieuses informations. Vous êtes la coordinatrice de la Semaine d'Action contre le racisme, la fondatrice et la présidente de Communication Ouverture Rapprochement Interculturel. Merci.
That's it this week, ladies and gentlemen, friends and comrades here at Amanda Radio, CQT 90.3. Thank you for listening to Sama special on racism, dedicated to the whole issue of racism for the month of March and wrapping it up with us here in April. Sogwen?
Well, you know, stay tuned for Jazz Euphorium. And next week, Tana Guse of Manga Bay Media will be back in the host seat. So please tune in to him next week. It's always quite the fascinating ride with Tana. Take care. See you next week.
Thank you.